France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Juan Gabriel Vázquez. L'idée qu'un romancier reconnu internationalement s'exprime sur la création est déjà une idée absolument passionnante. Et tout ça sur le ton de la conversation, un ton qui n'est absolument pas professoral et qui rapproche l'auteur de celui qui écoutait vos paroles ou qui les lise maintenant.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Plaidoyer pour la fiction, ode à la théorie de l'esprit aujourd'hui dans votre Book Club, invité par l'Université d'Oxford à réfléchir aux caractéristiques du roman, à sa capacité unique de traduire le monde, repousser les bornes de l'existence humaine et augmenter notre liberté. L'auteur et essayiste Juan Gabriel Vázquez y prononce 4 conférences en 2022. Celles-ci sont rassemblées dans un livre qui fait de l'expérience fictionnelle un lieu essentiel de découverte des autres, du monde et de soi, un lieu unique de quête et de dévoilement, un lieu pour habiter d'autres consciences que la sienne. Juan Gabriel Vázquez est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mercredi, on retrouve Mathilde Wagman pour une escapade côté littérature jeunesse. Aujourd'hui, elle évoque le personnage du petit lapin Miffy, ou plutôt son inventeur, grand artiste néerlandais, Dick Bruna. Et en fin d'émission, nous jouons à chercher avec vous de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour, Juan Gabriel Vázquez.
Bonjour.
Vous êtes auteur, romancier, essayiste, entre autres mille choses. Votre livre « La traduction du monde » a paru aux éditions du Seuil, dans une traduction de l'espagnol Colombie d'Isabelle Guignon. On en parlera tout à l'heure. Soyez le bienvenu ici au Book Club de France Culture. Ici où tout commence toujours par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. On veut d'abord faire connaissance avec nos invités en tant que ce sont des lecteurs, raconter le chemin de vie où ils ont rencontré ou pas des livres. Est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres ?
Oui, j'ai grandi dans une maison d'avocats d'abord. Mes parents étaient des avocats tous les deux. Et c'était une bibliothèque assez riche. Je ne vais pas dire que je partage parfaitement les goûts parfois de mes parents. Mais j'ai grandi avec les grands auteurs de la tradition latino-américaine récente, García Márquez, Vargas Llosa, et aussi la littérature anglaise que mon père adorait, donc Dickens, Thackeray, tous ces gens-là. Et c'était mes compagnons de route pendant années.
Vous avez vu vos parents lire?
Oui.
C'est une image qui était tout à fait quotidienne pour vous, normale.
Qui était normale, oui. Ouais. Oui, c'était une famille d'humanistes, disons. Mm. Et j'ai grandi avec cette idée très étrange que les auteurs, les écrivains étaient des gens qu'on respectait.
Mm-hmm. Très étrange.
Oui. Et qu'il y avait des choses à dire et que ces choses étaient parfois importantes. Donc voilà.
Est-ce que vous dites très étrange parce qu'un jour vous vous êtes rendu compte que c'était pas partout comme ça et que vous êtes rendu compte que peut-être l'idée que les auteurs et autrices étaient respectables pour ce qu'ils avaient à dire était une idée à défendre, par exemple?
Oui, en partie. C'est une idée, je me suis rendu compte avec le temps que c'est une idée exceptionnelle. Il y a des pays, par exemple la France, où cette idée a beaucoup plus de contenu dans la vie de tous les jours. Il y avait une mauvaise blague il y a bien longtemps, comme quoi, je crois me souvenir, en France, les écrivains sont respectés, aux États-Unis, les écrivains sont tolérés, en Australie, il faut expliquer ce qu'est un écrivain, ce qui est complètement injuste, parce qu'il y a des grands romanciers australiens qui sont importants. Mais l'idée, c'est que ça se passe pas comme ça partout dans le monde, sans exception. Il y a des endroits où le poids de la voix d'un romancier est différent.
Et ça, vous l'avez compris en voyageant? Ou
en
même
partie.
En fréquentant d'autres personnes autour de vous, des familles autour de vous, où ça se passait pas comme ça?
J'ai grandi avec un pied dans la tradition qu'on va appeler européenne. Donc la tradition, par exemple, de l'intellectuel public français, la tradition française, qui est très différente de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où c'est pas courant qu'un romancier donne son opinion dans la presse, qu'on écrive des éditoriaux ou des colonnes d'opinion. Et c'est un rôle différent que les écrivains et la fiction ont dans des endroits culturels différents.
Et vous dites que vous avez grandi avec ça parce que quoi ? Parce qu'on lisait la presse autour de vous ? Parce qu'on valorisait des prises de position d'autrices ou d'auteurs sur la situation du monde ?
Oui, oui, il y avait des débats qui étaient nettement politiques, mais dont les acteurs étaient des romanciers. Des romanciers qui donnaient une opinion à partir du métier du romancier, à partir de la compréhension du monde que peut avoir un romancier.
Et, vous avez des souvenirs particuliers, par exemple ?
Je me souviens de la quantité des problèmes que García Márquez, par exemple, a eu dans la vie publique parce qu'il était publiquement de gauche. Il a été même persécuté, accusé d'avoir des complicités avec la guérilla gauchiste du M19. Et il a dû quitter le pays à cause de ça. J'avais 9 ans, mais c'était un grand scandale. C'était la conversation publique du pays.
On en parlait à table.
Ouais. On en parlait à table. Tout le monde avait son opinion. C'était un sujet national, l'expulsion d'un grand romancier du pays. Et voilà, ça parle de l'importance qu'il avait dans la culture colombienne.
Mais ça veut dire qu'à 9 ans, vous savez, un, ce que c'est qu'un auteur, deux, ce que c'est qu'un grand auteur, trois, qui est García Márquez, et quatre, la manière dont on peut s'inscrire en tant que romancier dans une discussion publique. Tout ça, c'est palpable pour vous, dès 9 ans.
Oui. Oui. Oui, je
sais pas. C'est pas commun. Non, c'est vrai quand
non,
même, c'est pas commun.
Non, je ne crois pas. Mais je me souviens aussi que à cet âge-là, j'avais déjà publié une petite nouvelle dans une publication scolaire. Et donc c'est vrai que la littérature faisait partie de ma vie quotidienne.
Du côté lecture comme du côté écriture?
Oui, j'avais lu. Écoutez, je me suis rendu compte que la littérature française, par exemple Dumas. Était partie de ma vie de jeune lecteur. Je crois appartenir, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois appartenir à la dernière génération latino-américaine qui a grandi avec Les Trois Mousquetaires, Jules Verne, non ? Maintenant, les jeunes lecteurs commencent avec des choses très différentes.
Mais pour vous, c'était comme formateur, c'est-à-dire les jeunes lectrices ou lecteurs autour de vous, c'était commun de lire Dumas ?
Je crois, oui. J'ai fait mes études dans une école anglaise, donc j'habitais un monde
un peu différent, un peu séparé.
Séparé, mais le fait de lire ces écrivains d'aventure français en même temps que je lisais la littérature anglaise, en même temps que je commençais mes premières lectures latino-américaines, j'ai lu García Márquez quand j'avais peut-être 11 ans. C'était pas de lettres pour le colonel. Et tout ça faisait partie d'une idée de la littérature comme façon de découvrir le monde à une époque où ce qui m'intéressait le plus, c'était le foot. Alors,
j'allais exactement vous demander ça. C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'il y avait de la place pour autre chose que ce seul filtre de la littérature pour découvrir le monde ?
Oui. C'est-à-dire, j'étais un enfant comme les autres, et le foot était très important. Par la suite, je me suis rendu compte que le foot a aussi un côté très littéraire.
Vous pouvez développer ?
Il y avait Javier Marías, un écrivain espagnol que j'admire beaucoup. Il dit que le foot, c'est la récupération hebdomadaire de l'enfance. Donc,
c'est beau.
Un amateur de foot est toujours un enfant, une fois par semaine. Et ça fait partie de la raison pour laquelle c'est très important pour
nous. Mais en quoi c'est littéraire de récupérer son enfance de manière hebdomadaire ?
Je crois que Jorge Valdano, qui est un footballeur argentin, champion du monde en 86, est journaliste maintenant, entre autres. Il écrit magnifiquement sur le foot. Et il démontre à quel point le foot a un côté d'exploration du hasard, de héroïsme, de défaite absurde, mais aussi presque de résistance.
En gros, toutes les grandes dynamiques, c'est ça, toutes les grandes dynamiques de l'existence
du roman d'aventure
et du roman
sont là
dans un match.
Et oui, il écrit merveilleusement que le foot, c'est la chose la plus importante des choses les moins importantes. Et c'est une définition extraordinaire.
Est-ce que vous avez vécu des périodes où vous avez délaissé les livres, Juan Gabriel Vázquez, où d'un seul coup, il n'y avait plus de place pour la lecture?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Même quand la littérature prenait les marges, disons, qui étaient moins importantes parce qu'il y avait d'autres choses, d'autres intérêts, elle était toujours là. C'était un refuge. J'avais 11 ans quand une période de violence très forte a commencé en Colombie. Et je me souviens parfaitement d'une adolescence vécue avec les livres à côté, comme une sorte de refuge que je prenais parfois, dont je profitais parfois pour me protéger un peu du chaos de la vie sociale et politique d'une ville très difficile, qui est devenue très difficile. Et donc, je crois que c'était toujours là.
Avec la conscience de le faire? C'est-à-dire que parfois, quand on est enfant, en fait, on joue ou on fait des choses pour se mettre à l'abri, mais on ne sait pas qu'on le fait.
Oui.
Vous ne saviez pas que vous le faisiez?
Non.
Ouais.
Non, c'était complètement inconscient. Et d'ailleurs, je me demande si je ne suis pas en train de faire de la mythologie un peu, non, sur mon enfance.
Dans une lecture après coup de ce qu'aurait occupé la lecture.
C'est très très possible.
Mais c'est votre droit.
Oui.
Vous avez parlé donc de différentes étapes comme ça, mais dans la prime enfance, en fait, on est entre 9 et 12, 13 ans.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des étapes marquantes de votre vie de lecteur ensuite, qui ne seraient pas donc le grand roman anglais que vous découvrez via l'école, la littérature latino-américaine et les fameux Dumas et Jules Verne, les formateurs? Il y a eu quoi comme choc, un peu comme virage?
J'ai commencé à lire la littérature latino-américaine, donc à 11 ans, plus ou moins. Et à 16 ans, j'ai lu 100 ans de solitude. C'est pas très originel, mais ce livre m'a changé la vie. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu en vrai l'idée de peut-être faire ça avec ma vie, devenir romancier. J'étais censé avoir une vie d'avocat. J'ai commencé mes études de droit, j'ai fini mes études de droit. Mais je gardais en tête toujours le souvenir de cette lecture à 16 ans, de son temps de solitude. Et quand j'ai lu l'Ulysse de Joyce à 20 ans, maintenant je deviens conscient que c'est les deux livres ensemble qui ont donné naissance, pour ainsi dire, à cette passion, à cette vocation, l'idée d'être romancier.
Est-ce que vous savez ce que vous attrapez comme ça de définitif ou de décisif, plutôt que de définitif d'ailleurs, dans les deux textes, chez Garcia Marquez et chez Joyce? C'est quoi les pointes de l'iceberg?
Cent ans de solitude, c'était la possibilité d'oblitérer le reste du monde, d'être vraiment capturé par une lecture, au point d'oublier la fin, le temps.
Donc c'est la puissance de l'expérience.
Oui, oui. Avec l'Ulysse, c'était tout le contraire. C'était la conscience des possibilités de la langue, des possibilités de la technique, de tout ce qui pouvait arriver dans un même roman. L'Ulysse, tout le monde le sait, est construit sur le modèle de l'Odyssée d'Homère. Et donc chaque chapitre fait référence à un épisode de l'Odyssée, mais aussi à une symbole, une partie du corps, une heure de la journée. Et donc la possibilité de raconter une histoire qui fait référence à tellement de symboles, de niveaux d'interprétation, de techniques littéraires, l'idée de jouer avec les possibilités de la langue, tout ça est très attractif pour un jeune homme qui veut devenir écrivain.
Mais ce qui vous plaît à ce moment-là ou maintenant encore, c'est l'érudition que ça suppose ou la gymnastique, l'agilité, la possibilité de construction que ça requiert.
Oui, la gymnastique, c'est un très bon mot pour ça. Mais il faut Il faut dire que l'Ulysse ne m'intéresse plus comme il m'intéressait avant. Avec le temps, à cette époque-là, j'avais 20 ans. Je voulais être romancier. Et je suis tombé amoureux des livres à la surface très compliquée, mais avec un fond clair, comme Ulysse. L'histoire que raconte Ulysse est très simple. C'est un jeune homme qui cherche un parent et un homme de moyen âge qui cherche un fils, de façon métaphorique. Et donc, il y a de l'amour aussi, il y a un tas de choses. Mais ça, c'est l'histoire très simple que le livre raconte. Les moyens invoqués pour la raconter sont extrêmement compliqués. Et moi, j'aimais ça. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, j'aime bien plutôt les livres à la surface.
Limpide
et au fond compliqué. Dans le fond, on ne voit pas ce qui se passe, on n'arrive pas à voir le fond de la rivière. Mais la surface est limpide, simple, facile à parcourir. Je pense par exemple à Horus, à Tolstoï, à Tchekhov.
C'est qu'on a l'impression de quelque chose, d'une ligne claire.
La forme, le langage ne représente pas des difficultés pour le lecteur.
Mais la complexité contenue est immense.
Inépuisable, oui.
Et là, c'est ça votre territoire de lecteur aujourd'hui, quoi. C'est ça votre goût de lecteur aujourd'hui.
Oui, je retourne à l'Ulysse parfois, comme dans une ville qu'on connaît, qu'on connaît bien, mais on connaît des quartiers mieux que les autres. Mais je préfère les nouvelles de Joyce, Dubliner. Je ne connais pas le titre en français. Jean des Dublin, oui. Et qui sont très simples, très russes, très tchécoviennes. Et c'est ça, c'est cet élan de clarté qui me plaît maintenant.
On va parler de votre livre qui rassemble ces conférences, Juan Gabriel Vázquez, juste après cette chanson d'un musicien suédois d'origine argentine qui s'appelle José González. La chanson s'appelle El Invento, l'invention. C'est une chanson tissée de questions. Sans réponse, l'une des questions se demande si c'est possible de se sentir appartenir au peuple des livres ou si on fait juste semblant de comprendre quelques énigmes de l'univers.
No hay tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color. Vamos a aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime. Por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, dime y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué?
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On formule clairement les questions cet après-midi dans votre book club sans jamais y répondre de manière totale, car elles sont grandes. Grandes comme celle-ci, que peut la fiction ? C'est une des interrogations qui agitent votre dernier essai, Juan Gabriel Vázquez, et vous nous prévenez, ou plutôt vous concluez, qu'elle ne peut rien. En vérité, qu'elle n'a, je vous cite, aucune transformation immédiate à proposer, mais elle a à offrir de la liberté, et c'est précieux, de la liberté de penser, de juger, de rire, d'ironiser, d'imaginer surtout d'autres consciences et d'autres vies que la nôtre. C'est avec enthousiasme et esprit de révolte que vous écrivez en somme un véritable plaidoyer pour la question en réunissant quatre conférences que vous avez données à l'université d'Oxford en 2022. Le livre s'appelle « La traduction du monde ». Il est apparu aux éditions du Seuil dans la traduction de l'espagnol par Isabelle Guignot. Je vais profiter de répéter deux fois le mot « traduction » et dans le titre et pour le travail d'Isabelle Guignot pour vous interroger là-dessus. Vous éclairez ce mot que vous choisissez par une citation du Temps retrouvé de Marcel Proust. Pourquoi est-ce que c'est important pour commencer la conversation de s'attarder un petit peu sur ce mot-là de « traduction du monde » ?
Oui, l'origine du titre est cette idée dans le roman de Proust que nous avons tous un livre qu'on porte dans soi. Et donc, à certains moments, Marcel, le narrateur, dit que si nous avons tous un livre à notre intérieur, la vraie tâche de l'écrivain, ce n'est pas d'inventer, c'est de traduire notre livre, de traduire le livre de notre expérience pour la rendre compréhensible pour les autres. Moi, j'essaie dans le livre d'élargir l'idée de traduction, de dire au lecteur, un romancier ou un roman, c'est un instrument pour traduire toute l'expérience du monde. Pas seulement le livre que nous avons dans notre intérieur, mais l'expérience politique, la signification des événements de la vie, notre place dans le monde public, dans le monde des forces, de l'histoire, de la politique, tout ce qui est incompréhensible si on ne prend pas les instruments nécessaires pour bien l'explorer. Tout ça est le domaine de la fiction. C'est l'idée de raconter les aspects de la vie qui restent en dehors de l'histoire, du journalisme, tout ce que ni le journalisme ni l'histoire peuvent nous révéler sur notre vie, ça, c'est le domaine de la fiction. Et sans la fiction, notre compréhension du monde serait incomplète.
Mais d'un seul coup, le mouvement, c'est pas « il y a un livre à l'intérieur de l'autrice ou de l'auteur et elle le traduit vers nous », c'est une sorte de triangle qui serait « il y a nous », il y a le texte, il y a le réel, et le texte est au milieu une entreprise de traduction de notre expérience du réel.
On ne peut pas comprendre la réalité si on ne la raconte pas. Et il y a des choses qu'on peut comprendre par ces récits qu'on appelle journalisme, histoire, sociologie, philosophie. Mais il y a un tout petit côté de notre expérience qui reste caché, qui reste invisible. Il y a la réalité visible, il y a ce côté invisible ou souterrain de l'expérience qu'on peut comprendre seulement parce qu'on a lu Kafka, par exemple, ou parce qu'on a lu Dostoïevski. Ce sont des gens, c'est Isaiah Berlin qui l'explique magnifiquement. Il dit qu'il y a deux niveaux dans l'expérience humaine. Un niveau supérieur qui est visible, qui est mesurable. On le comprend à travers les faits, les données concrètes, mais il y a un monde souterrain, le monde de nos fantômes, de nos démons, de nos contradictions, nos ambiguïtés. Et ça, c'est avec un romancier qu'on peut y arriver et l'illuminer.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que vous défendez aussi, Juan Gabriel Vázquez, tout à l'heure, l'idée de tous ces textes qui gardent leur opacité, qui ne font pas toute la clarté sur la complexité. Et donc, c'est intéressant parce que vous, en défendant ça, vous défendez la fiction comme un outil de connaissance, un outil de dévoilement, un outil d'éclaircissement. tout en se disant que là où c'est le plus intéressant, c'est quand c'est pas complètement expliqué, oui. pas complètement éclairci, pas complètement dévoilé.
Oui, je défends l'idée de la fiction comme un outil de connaissance, mais c'est une connaissance qui n'est pas...
Jamais totale.
Qui n'est ni totale, ni formée de réponse. Mm. Il y a une lettre magnifique de Tchekhov que je cite dans le livre, une lettre qu'il a écrite en 1898. À quelqu'un qui le réclamait qu'il ne prenait pas des positions morales, ni éthiques, ni politiques claires dans ses nouvelles. Et il répond en disant, la tâche d'un écrivain, d'un artiste, il dit, ce n'est pas de donner les réponses, c'est de formuler correctement les questions. Mmh. Et pour moi, la littérature, c'est un endroit où on pose des questions, où on interroge, où on interpelle les réponses claires, les réponses sans ambiguïté, ça fait partie d'une autre façon de voir le monde. La philosophie, la politique... Mais pas ni la fiction ni la poésie, je crois.
Et alors, ce qui est intéressant, Juan Gabriel Vázquez, c'est que ces conférences-là sur les littératures et la fiction, vous les prononcez en 2022 à Oxford, oui. dans un temps qui vous semble peut-être déserter un peu l'intérêt de la fiction ou douter de l'intérêt de la fiction, en tout cas avoir modifié la place qu'il laisse à la fiction. Et vous formulez quelques hypothèses sur le temps contemporain, que peut-être avoir moins foi dans cet espace-là qui serait l'espace fictionnel, ce serait oui. avoir moins foi dans la partie ambiguë de l'expérience de la vie, dans la partie du doute, dans la partie de la relation aux autres. Et vous citez pour ce faire plusieurs auteurs contemporains, mais par exemple, Zadie Smith, dans un article qui s'appelle « Fascinated to presume a defense of fiction », on écoute un extrait.
Pour moi, la question qu'il faut se poser n'est pas devons-nous renoncer à la fiction ? Mais savons-nous ce qu'était la fiction ? Je pense que oui. Dans le processus consistant à nous en écarter, nous l'avons accusée d'appropriation, de colonisation, de tromperie, de vanité, de naïveté, d'irresponsabilité politique et morale. Nous avons décrété que la fiction était déficiente sous d'innombrables aspects. Mais nous nous sommes rarement demandé ou rappelé ce que nous attendions d'elle. Quelle théorie du moi et de l'autre elle nous proposait ? Ou pourquoi ces théories ont si longtemps été significatives pour la plupart des gens ? Honteux du roman et de son habitude mortifiante de mettre des mots dans la bouche d'autrui, beaucoup se sont rapidement déplacés vers ce qu'ils perçoivent comme un terrain plus sûr, à savoir la supposée et indéniable authenticité de l'expérience personnelle.
C'est relativement au début de votre texte, Juan Gabriel Vázquez, cette citation de l'article de Zadie Smith, et vous arrêtez sur l'usage de l'imparfait. Est-ce que nous nous sommes seulement demandé ce qu'était la fiction, ce que nous attendions d'elle, Zadie Smith parlant au passé, et c'est ça qui vous intéresse, vous dites, eh ben très bien, penchons-nous là-dessus alors, penchons-nous sur l'expérience, sur notre attente-là. En quoi est-ce que les temps qu'on traverse, ce serait un temps où il faudrait se reposer la question de ce qu'on attend de la fiction, ce qu'est la fiction.
Je remarquais quand j'étais à New York pour une saison de 9 mois, c'était 2019, lors de la publication de cet article, j'ai remarqué une conversation qui était partout, qui inquiétait les professeurs, les élèves de littérature. Moi, j'ai donné des conférences à Barnard University. Et c'est la question sur les droits que nous avons de raconter la vie du point de vue d'un autre, avec lequel on ne partage pas la même identité. Donc, raconter la vie à partir du point de vue d'une femme, si l'écrivain est un homme, ou à partir du point de vue d'un homme juif, si l'écrivain ou l'acteur ne l'est pas. Et c'était très contesté. Et condamné par les réseaux sociaux, par la conversation dans les réseaux sociaux.
Et sous l'expression de l'appropriation culturelle.
Voilà. Et j'ai trouvé alors que l'article de Zadie Smith était très courageux. Parce qu'il y avait une sorte de sanction. C'était méprisé dans certains endroits, cette idée qu'un romancier a le droit de parler à partir d'un point de vue qui n'est pas le sien. Identitaire, un point de vue identitaire. Et moi, j'ai eu peur de voir des gens qui prenaient ça au sérieux, qui mettaient en question le fait essentiel d'imaginer la vie d'un autre, qui est bien sûr la genèse et l'ADN de la fiction. La fiction existe pour ça, existe à partir de ça.
Mais vous en avez eu peur, Juan Gabriel Vázquez, pas seulement pour des questions littéraires à vous lire. Vous disiez que se priver de cette expérience-là, ça voulait dire de manière sous-jacente qu'on commençait à ratiboiser notre capacité à se mettre en lien avec l'autre, car vous dites, la théorie de l'esprit, c'est être capable de formuler des hypothèses sur ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre, dans le corps de quelqu'un d'autre, dans le corps de quelqu'un d'autre d'une époque ou autre, dans le corps de quelqu'un d'autre qui n'a pas la même couleur de peau, et que c'était ratiboiser l'expérience fictionnelle, c'était faire un pas vers ne plus être capable d'être en relation. Mais là, vraiment d'un point de vue politique, dans le réel, quoi.
Voilà.
Pour vous, il y avait une stricte, il y avait un continuum, en fait.
Oui, voilà, il y a des conséquences politiques pour la perte de notre capacité d'imaginer la vie des autres. On le sait parce que, pour moi, la naissance du roman moderne que nous, les habitants du monde hispanique, nous mettons avec Don Quichotte, 1605. Pour un français, Rabelais existe avant, mais je parle du roman moderne en tant que roman réaliste. Et il y a un petit livre publié un demi-siècle avant Don Quichotte, qui s'appelle Lazarillo de Tormes. Lazaril de Tormes, peut-être en français.
Dont vous parlez dans votre texte.
Oui. Qui est l'histoire, à la première personne, d'un homme très humble, qui vit dans des conditions très difficiles, pauvre, presque illettré au début. Et ensuite, il écrit ce roman magnifique, donc on sait qu'il n'est pas illettré. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui a écrit ce livre. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il n'a pas été écrit par quelqu'un comme son personnage, comme le narrateur. C'était vraisemblablement un humaniste qui avait accès au livre, qui avait très probablement une grande bibliothèque, qui connaissait les classiques latins et grecs. Donc c'est quelqu'un qui mène une vie privilégiée, qui écrit 150 pages en imaginant la vie très réaliste, très quotidienne, d'un homme dépourvu de privilèges. Et cet acte d'imagination est profondément politique. Le point de vue de ce livre n'est pas une question littéraire, technique, c'est une question morale. À partir de là, la possibilité d'imaginer les vies des autres, qui sont moins privilégiées, qui appartiennent...
Entre autres. Parce que c'est pas que ça. Les différences de pouvoir se projeter, ça ne se situe pas que sur des questions économiques.
Voilà.
Vous l'avez dit, c'est des questions de genre, des questions d'être racisé ou pas. Enfin, il y a plein de questions qui font que on est très différent de celle ou celui dans laquelle on se projette quand on écrit de la fiction.
Oui, c'est ça. Mais dans le cas de ce livre ponctuel, je crois que à partir de là, il y a un mouvement, une sorte de révolution de nos mentalités, qui mène directement aux conquêtes démocratiques, à la possibilité de... Il y a un passage de Milan Kundera, que je cite aussi dans le livre, dans lequel il dit que la société européenne a l'habitude de se considérer l'inventeur des droits humains. Mais, dit Kundera, pour inventer les droits humains, d'abord, il fallait inventer la notion d'individu. Et pour ça, les arts européens, et en particulier l'art du roman, qui nous apprend à nous intéresser à des vies différentes que la nôtre, et aussi à comprendre des vérités différentes que les nôtres, est essentiel. Il y a un lien mystérieux, je crois, entre la naissance du roman moderne et la démocratie telle qu'on la connaît depuis le XVIIIe siècle.
Mystérieux ou lien de représentation, Juan Gabriel Másquez. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir d'ailleurs que c'est le même mot qui est utilisé en littérature, la représentation,
oui,
qu'en politique. Quand on parle de démocratie, précisément, nous élisons des personnes pour nous représenter, nous, la masse populaire. Donc c'est une des, oui, équivalences qu'on pourrait faire.
Tout à fait.
Je crois que c'est intéressant que vous parliez des arts européens parce que vous faites tout un décrochage vers la peinture et l'importance de voir d'ailleurs picturalement représenter d'autres vies que celles de peintres éventuellement privilégiés, éventuellement de la cour, etc. Mais un instant, pour essayer de tenir ensemble, dans les deux mains, puisqu'on est humaniste, ce qui s'exprime dans la crainte de l'appropriation culturelle. Parce que vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce qui se joue dans la résistance, là. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est aussi une révolte, puisque vous terminez sur le sentiment de révolte, la révolte d'avoir été, pendant des siècles, parlé par les autres, dit par les autres, raconté par les autres, c'est le cas des femmes,
oui,
c'est le cas de toutes les personnes dominées, c'est le cas des personnes dominées économiquement, c'est le cas des personnes dominées racialement.
C'est-à-dire que l'expérience coloniale.
Voilà, l'expérience coloniale, tout ça, ça a nourri la crainte de l'appropriation, oui, culturelle et le désir de enfin pouvoir se dire par soi-même, depuis soi-même, la fameuse question de qui tu es pour parler, etc. Oui. Comment vous tenez ensemble, Juan Gabriel Vásquez, ça qui est essentiel et qui est aussi un pas très important des temps contemporains,
oui,
et ne pas se priver de l'écriture fictionnelle, pouvoir écrire un texte à la première personne en disant qu'on est une femme quand on est un homme hétéro, cis, blanc, oui, voilà.
Oui.
C'est... Comment vous faites ?
Merci, merci de me donner l'opportunité d'expliquer ça. Je comprends parfaitement d'où ça sort, l'inquiétude de la profession culturelle. Je le dis dans le livre, nos histoires sont tellement importantes pour nous. Sont une façon de nous expliquer politiquement, du point de vue de l'identité, de nous construire. Nous construisons.
Nos histoires avec le petit H, nos récits.
Oui. Ouais. Elles sont tellement importantes pour nous que nous rejetons presque par instinct l'idée que quelqu'un d'autre nous vole le droit de raconter notre propre histoire. J'ai même fait tout un roman presque là-dessus. Il s'appelait « Histoire secrète du Costaguana » et ça jouait avec l'idée que Joseph Conrad, un écrivain que j'adore, qui est allé à la côte de la Colombie aux Caraïbes quand il avait 19 ans. Et ensuite, en 1904, il a fait tout un roman sur un pays latino-américain qui n'existait pas, Costaguana. Et donc, mon narrateur est quelqu'un qui déteste l'idée que cet écrivain polonais qui écrit en anglais est venu me voler le droit de raconter l'histoire de mon pays. Et le roman, c'est sa récupération de cette histoire. Bien. Ça pour expliquer que je comprends parfaitement l'anxiété de voir nos droits narratifs volés par quelqu'un d'autre.
Ça existe.
Ça existe. Et c'est très compréhensible. Mais la fiction appartient à un autre ordre de compréhension du monde. Si on vole à la fiction le droit de traverser des identités, de pénétrer les identités des autres, on nous ferme les capacités de comprendre le monde que nous avons avec les romans. C'est très difficile d'accepter ça sans se demander qui aurait les droits de tracer les lignes, qui aurait les droits de mettre les frontières, jusqu'à quel point on a le droit d'imaginer les autres. Si on interdit la fiction romanesque, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on est n'est pas en train de permettre ensuite l'interdiction du droit de changer des idées politiques, je ne sais pas, de parler pour les autres, en défense des autres?
Oui, d'ailleurs, vous allez jusque-là, Juan Gabriel Vásquez, en évoquant plutôt à la fin de vos textes la figure de Salman Rushdie, en, oui, disant « défendre un terrain fictionnel et la possibilité pour la fiction d'exister ». Au final, quand on pousse les choses dans ces retranchements, c'est défendre la possibilité juste de dire, défendre la possibilité d'écrire, donc défendre la possibilité de l'imagination, de l'écriture. Enfin, vous montrez le continuum là aussi, mais puisque vous parlez d'un autre ordre et que vous avez prononcé le mot de colonisation, je reviens là-dessus, la colonisation, ça a été aussi fabriquer des récits pour remplacer des cosmogonies, pour remplacer des organisations du monde, pour remplacer des géographies, fabriquer des nouvelles cartes, vous parlez de tracer des frontières. Et donc, la méfiance à l'égard de la fiction, elle vient aussi comme en réaction à des gestes impérialistes, à des gestes de volonté d'effacement de récits précédents. Et ce qui est très beau, c'est que vous vous dites à quel point la fiction, c'est précisément la possibilité d'opposer des contre-récits, la possibilité d'opposer de l'ironie, de l'humour, de la liberté. Alors peut-être que la question, au final, elle est plus prosaïque, elle est plus politique, c'est qui peut écrire ? Qui a la possibilité d'écrire ? Au-delà de qui peut écrire quoi, c'est qui peut écrire tout court, qui peut être publié, qui peut être entendu ?
Oui, c'est ça, qui peut écrire et qui a le droit de nous dire comment écrire et sur quoi écrire et quoi imaginer. Je viens d'une tradition qui a passé des longues années, la tradition latino-américaine, à se révolter contre la version unique, monolithique du monde qui nous apportait la colonisation espagnole.
C'est bien dire qu'il y a une bataille de récits.
C'est tout, mais il y a toujours une bataille de récits, toujours. La vie est une guerre entre des versions de la vie. Et le pouvoir politique, ça veut dire principalement, ça veut dire beaucoup de choses, le pouvoir politique, mais principalement, ça veut dire le droit d'imposer une version du passé et du présent.
Et on est les deux pieds là-dedans, je crois, quand même, dans bien des géographies mondiales en ce moment.
Exactement, exactement. Et c'est là que la littérature a un rôle énormément important. La littérature, c'est souvent, dans la tradition latino-américaine, je peux le dire, mais partout dans le monde, c'est l'endroit où on lève la main et on dit au pouvoir, vous mentez, ou les choses ne se sont pas passées comme ça, ou les choses auraient pu se passer d'une autre façon. Et cette possibilité est énormément importante pour une société, pour un peuple, mais aussi pour l'individu tout court.
Oui, la place qu'occupe la possibilité qu'a la fiction de dire l'histoire est une place assez importante dans ces conférences, Juan Gabriel Vázquez, et vous évoquez notamment la romancière Marguerite Yourcenar. On l'écoute ici dans une archive de 1971.
Le grand historien est un des grands phénomènes intellectuels à toutes les époques de l'histoire. Les règles de son jeu, pourtant, sont très différentes de celles du romancier. L'historien, comme le romancier qui veut faire œuvre d'historien, doit tâcher naturellement de tout savoir sur le personnage dont il parle. Et il a devant lui tout un attirail de faits qu'il nous présente, qu'il doit nous présenter avec lucidité. Il n'est pas obligé, je dirais même que les règles du jeu lui interdisent, d'entrer à l'intérieur de son personnage pour le recréer. Le romancier, au contraire, doit refondre en quelque sorte ses documents figés, que sont les documents historiques, et les faire passer au feu de sa propre émotion, de sa propre personnalité, et leur donner, leur rendre cette fluidité qu'ils avaient au moment où ils étaient simplement de la vie vécue. Il y a donc, en somme, plusieurs manières qu'il est nécessaire d'employer à la fois pour évoquer un événement passé, que cet événement soit proche ou lointain. Et la première est évidemment l'érudition, la recherche de tous les détails que nous pouvons connaître sur un milieu ou sur un être. La seconde est une sympathie humaine, capable de franchir le fossé des distances, de nous mettre à la place de ces êtres et de pénétrer dans ce milieu. Et la troisième est cette espèce de coup d'œil, cette espèce de regard qui nous fait embrasser d'un seul coup le temps dans lequel le personnage a vécu, le temps dans lequel nous sommes, et transformer en quelque sorte ce temps qui est de l'éternité pliée, comme le disait Cocteau dans une formule inoubliable, en une sorte de nappe étale sur laquelle nous voyons se mouvoir les événements.
Puissance d'image de la langue de Marguerite Yourcenar dans cette archive de 1971. Là aussi, malheureusement, on a très peu de temps pour déplier ça. Je vais reprendre la métaphore de Yourcenar, mais... Vous dites à quel point la fiction, ce territoire d'invention, ce territoire d'imagination, c'est aussi, et peut-être paradoxalement dans un premier temps comme ça, la possibilité de dire l'histoire.
Oui.
Pourquoi, comment ?
Oui, voilà, c'est la grande question que Yourcenar s'est posée aussi. Partons d'un principe. Le passé n'existe pas. Le passé existe seulement en tant que récit. C'est-à-dire, le passé existe seulement quand on les raconte. Et ça veut dire que, d'abord, que les narrateurs du passé ont une énorme responsabilité et qu'ils peuvent manipuler, mentir, causer des distorsions dans les tissus du passé. Et ça veut dire aussi que nos connaissances du passé sont limitées au récit qu'on peut utiliser pour le visiter. Donc, il y a toute une dimension du passé qui appartient à ce qu'on appelle l'historiographie, la discipline, la science de l'histoire, dont la tâche est de raconter tout ce qui peut être, tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut...
Oui, on en revient aux deux couches de l'expérience du réel dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà. Tout ce qu'on peut trouver dans des documents, des témoignages, des objets. Mais où peut-on aller si on veut savoir comment se sentait...
L'empereur Adrien, par exemple.
Voilà, voilà. Comment était vivre pendant les guerres napoléoniques? On va à Tolstoï ou on va à Yourcenar parce qu'il y a une dimension de l'humain qui est le domaine de l'imagination. Elle parlait là de érudition et de sympathie.
Elle parle d'une refonte. Ouais. Oui. Vous citez aussi son usage de la magie parce que vous dites
la
que
magie
vous revenez,
sympathique.
Ouais, vous revenez très souvent à ces carnets qu'elle publie un an après les mémoires d'Adrien. Mais là, dans l'archive, elle dit aussi il y a les documents historiques et puis il y a la manière dont on doit les faire passer par le feu.
Oui, oui. Et ça, il y a une phrase très belle du romancier américain Nathaniel Hawthorne qui parlait de a home feeling with the past. Être chez soi dans le passé. Et ça, pour moi, ça, c'est presque impossible sans le recours à l'imagination, à la fiction.
On va écouter la voix de Christian, auditeur du Book Club. Il vous a lu avec passion et il vous adresse une question.
Bonjour, Juan Gabriel Vázquez. Un chapitre m'a particulièrement intéressé. C'est celui qui s'intitule « Raconter le mystère ». Mystère réel qui passe en littérature, hein, mystère du roman qui se fait peu à peu, ce qui m'amène à vous poser une question sur votre propre création. Comment vivez-vous le mystère de votre création? Merci.
Et merci pour cette vaste question, Christian. Vous dites bien, Juan Gabriel Vázquez, qu'évidemment c'est un essai, il y a de la théorie dans ce livre-là, mais que vous l'écrivez en tant que romancier.
Oui. En tant que romancier, ça veut dire conscient des points aveugles, des questions que je pose et de l'impossibilité de les résoudre tous.
Et pour répondre à la question
la notion de mystère est très importante dans mon idée de ce que fait les romans. Tous mes romans partent d'un événement réel, une personne que je connais, un événement qui m'arrive, une expérience que j'ai. Et ce qui m'intéresse est un petit coin de cette expérience, de cet être humain que je viens de raconter, qui représente quelque chose de caché, de secret. Il y a une réponse là qui n'est pas donnée. Il y a un petit mystère, ou grand, dans la vie d'un autre, dans l'endroit où se croisent les vies privées et les événements politiques de mon pays en particulier. Et la fiction est le véhicule que je prends pour aller dans le cœur de ces ténèbres, dans le cœur de ce mystère, et retourner avec une forme de réponse. C'est pour ça que, d'habitude, mes livres prennent la forme d'une enquête. Il y a un homme comme Antonio Yamara dans « Les bruits des choses qui tombent », qui voit mourir un homme qu'il vient de rencontrer et il s'intéresse à la vie secrète, à la vie privée, à la vie cachée de cet homme et par là, il fait des découvertes sur sa propre vie. Les corps de ruines est un autre roman dans lequel le narrateur est obsédé par deux crimes du passé politique colombien et il a cette drôle d'idée que éclaircir ses meurtres va lui donner des réponses importantes pour sa propre vie. Donc, mes narrateurs souvent font des enquêtes qui ne sont pas policières, mais qui essayent de pénétrer dans le mystère d'une vie qui n'est pas la leur, et de la réalité politique, sociale de mon pays.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, on parle des lectures, mais à destination du jeune public. Avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous voulez rendre hommage à un grand artiste néerlandais disparu en 2017 qui s'appelle Dick Bruna.
Oui Marie, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, ni à celles et ceux qui nous écoutent, et pourtant je suis sûre qu'un grand nombre d'entre vous connaît son travail. Dick Bruna est en effet le créateur de l'un des plus célèbres lapins de la littérature jeunesse. J'ai nommé le personnage de Miffy. Là encore, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais je suis sûre que si je vous mets une image de Miffy sous les yeux, vous le reconnaîtrez instantanément. Vous aurez même l'impression de l'avoir toujours connue. Miffy, c'est une petite lapine dessinée avec des traits minimalistes, réduits au plus simple appareil, un contour noir, une tête ronde, deux points noirs pour les yeux, une croix en guise de bouche. Les personnages de la franchise japonaise Hello Kitty en sont graphiquement très proches, si proches que cela a été autrefois l'objet d'une bataille juridique sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. Miffy donc, fait cette année, c'est 70 ans, le tout premier album la mettant en scène, paru en 1955. 31 autres suivirent dans cette gamme restreinte de couleurs, caractéristique du travail de leur auteur. Traduit dans 50 langues, vendu à quelques 85 millions d'exemplaires, ils ont fait de Dick Bruna l'auteur néerlandais le plus traduit dans le monde après Anne Frank. Plusieurs parutions et événements permettent de découvrir le parcours, le cheminement, le processus de création de cet artiste. D'une part, une passionnante monographie signée Bruce Ingmar et Ramona Rahill aux éditions Flammarion. De l'autre, une exposition rétrospective à voir jusqu'au 15 juin dans l'un des rares musées européens dédiés à l'illustration jeunesse, le musée de Moulins dans l'Allier.
Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus de choses sur cet homme qui était Dick Bruna?
Il était né à Utrecht, aux Pays-Bas, donc, en 1917. C'était l'arrière-petit-fils du fondateur de l'une des plus grandes maisons d'édition du pays, dirigée par son père, qui aurait bien aimé que son fils reprenne le flambeau. Mais le jeune homme voulait devenir artiste. Après-guerre, il passa plusieurs mois à Paris, un moment décisif pour lui, de rencontre avec l'art moderne, les tableaux de Picasso, de Fernand Léger et surtout de Matisse, dont Dick Bruna dit qu'il fut l'homme le plus important de sa vie. À son retour aux Pays-Bas, il fut également très marqué par le mouvement De Stijl, un groupe d'artistes et architectes néerlandais, parmi lesquels Mondrian, qui défendait une simplification totale de la composition. Les auteurs de la monographie décrivent très bien, illustration à l'appui, la façon dont Bruna distilla au fil des années toutes ses inspirations dans son travail, dans une sorte de pollinisation croisée entre ses différentes pratiques. Il commença en effet son parcours professionnel en travaillant comme graphiste pour les éditions de son père, pour lesquelles il créa de nombreuses et très belles couvertures de livres, des Maigret, des OSS 117, des livres de James Baldwin aussi. Plusieurs couvertures sont reproduites dans le livre et sont à voir également dans l'exposition.
Et alors, dans quel contexte il en vient à créer des livres pour les enfants?
C'est intéressant de noter que son tout premier album pour enfants, qui s'appelle La Pomme, en 1953, avait d'abord été conçu dans son esprit comme un livre d'art et d'hommage à Matisse. C'est en 1955, après avoir imaginé oralement une histoire de lapin pour son fils, que Bruna, en vain, a créé cette petite lapine qui fit sa renommée. À son propos, il déclara qu'il avait voulu créer un dessin qui agisse comme un souvenir. Et de fait, le personnage imprime notre mémoire très profondément, si bien que quand on se trouve face à elle, on a l'impression de l'avoir toujours connue. Son nom néerlandais est Nintje, diminutif de Konintje, autrement dit petit lapin, Miffy étant en fait le nom qui lui fut donné dans la traduction en anglais. Les albums furent pour la plupart créés dans un format carré, 15 cm par 15, et composés de 12 pages d'illustrations, face auxquelles on trouve des textes très courts, dans une police elle aussi minimaliste, sans empattement, sans majuscule, qui laisse à l'image le devant de la scène. Les histoires mettent en scène le personnage, ses parents, ses amis, dans des scènes de vie quotidiennes, quotidienne. La chose était très originale dans les années 50, où les albums jeunesse reposaient souvent sur des récits denses et des dessins chargés. L'une des dimensions les plus passionnantes de la monographie comme de l'exposition est celle qui donne à voir la méthode de création des albums singulière, à savoir le dessin au ciseau. Pour chaque illustration, Dick Bruna réalisait d'abord une esquisse des personnages sur un calque, puis reportait ce dessin sur un papier aquarelle et traçait au pinceau les contours à l'acrylique noir. Ce dessin était ensuite à son tour reporté sur un film transparent et alors seulement, Bruna choisissait les couleurs parmi des papiers teintés préalablement fournis par son imprimeur. 5 couleurs seulement, rouge, bleu, jaune, vert et marron, les 3 couleurs primaires étant légèrement assombries avec une touche de noir. Dick Bruna a créé en tout 124 albums pour enfants, 32 mettent en scène Miffy, mais il en existe bien d'autres, plus méconnus. Les éditions Memo viennent aussi d'en faire paraître 2, jusque-là inédits en France, Po et Bo, l'histoire de 2 pingouins sur la banquise, et Une année, 4 saisons, qui met en scène un petit ourson. Le soin porté par cette maison d'édition à l'impression rend justice à la subtilité de ce travail sur les couleurs, c'est un pur régal. Je signale enfin que plusieurs aventures de Miffy sont disponibles aux éditions La Martinière Jeunesse en France. Tout cela permet de mesurer l'importance de l'œuvre de Dick Bruna, non seulement dans l'histoire de la littérature jeunesse, mais aussi tout simplement dans l'histoire de l'art.
Merci beaucoup. Toutes les références à retrouver sur le site de votre chronique, Mathilde, lecture jeunesse sur franceculture.fr. À la semaine prochaine. Bon, j'espère que vous l'avez compris désormais, Juan Gabriel Vázquez, c'est une émission où on aime bien lire et on essaye de faire ça de manière ludique. Donc on propose à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les textes. À chaque fois qu'ils rencontrent l'évocation d'un air musical, ils partagent avec nous des extraits musicaux. Aujourd'hui, c'est Nadège, notre auditrice, qui a choisi un extrait du livre Home de Toni Morrison. On va donc se quitter avec ce texte-là. À l'intérieur de la salle, petite et enfumée, une douzaine de spectateurs très attentifs faisaient face à un trio. Trompette, piano et percussion. Le morceau n'en finissait pas et hormis quelques-uns qui hochaient la tête, personne ne bougeait. La fumée flottait dans la pièce, les minutes s'écoulaient. Le visage du pianiste était luisant de sueur, comme celui du trompettiste. Celui du percussionniste, cependant, était sec. À l'évidence, il n'y aurait pas de conclusion à ce morceau. Il ne s'arrêterait que quand un musicien serait enfin épuisé. Quand le trompettiste écarterait l'instrument de sa bouche et que le pianiste taquinerait les touches avant d'exécuter une dernière séquence. Mais quand vint ce moment, quand le pianiste et le trompettiste eurent terminé, le percussionniste jouait encore. Il n'en finissait pas. Au bout d'un moment, les autres musiciens se tournèrent pour le regarder et reconnurent ce qu'ils avaient dû voir précédemment. Le percussionniste avait perdu tout contrôle. C'était le rythme qui décidait. Au terme de longues minutes, le pianiste se leva et le trompettiste posa son instrument. Tous deux soulevèrent le percussionniste de son siège et l'emmenèrent, ses baguettes battant toujours un rythme à la fois complexe et silencieux. Le public applaudit en témoignage de respect et de compréhension. Suite à ces applaudissements, une femme, en robe bleu vif, et un autre pianiste entrèrent en scène. Elle chanta quelques mesures de Skylark, puis entonna un scat qui égaya tout le monde. Skylark, have you anything to say to me? Won't you tell me where my love? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journeying over the shadows and the rain? Merci beaucoup, Juan Gabriel Vázquez, d'avoir été avec nous pour parler de votre livre « La traduction du monde » paru aux éditions du Seuil, dans une traduction de l'espagnol d'Isabelle Guignon. Merci à Margot Page qui était à la réalisation. Au son, c'était Ludovic Auger. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission via l'application Radio France et poursuivre la conversation sur le compte Instagram animé par Alexandra Lajbegovic.